les deux premiers versets du chapitre 12 des Romains. Nous avons déjà médité à trois reprises, vendredi, samedi et dimanche après-midi à 15h, sur ces deux versets, et nous allons poursuivre maintenant, et il faut bien penser pouvoir terminer. Je voudrais faire une observation en commençant. Ce matin, au culte, nous avons entendu un don spirituel, interprétation de langue, c'était Madame Christiane Yérémian qui prononçait ce don spirituel, et le contenu du don était la mise à la nécessité, l'appel du Seigneur pour l'accomplissement de sa volonté dans le cours de notre vie chrétienne. L'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors, j'ai noté cela avec beaucoup de satisfaction parce que j'aime bien remarquer, et cela on le remarque assez souvent dans le cours des réunions des églises, l'harmonie du Saint-Esprit. L'harmonie, le Saint-Esprit harmonise, vous voyez, et dans un centre comme celui-ci, où nous avons l'occasion d'entendre plusieurs prédicateurs et des dons spirituels, alors vous voyez, le Saint-Esprit harmonise. Ainsi donc, ce matin, le Seigneur nous a rappelé à cela. C'est fondamental, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Sans cet accomplissement, il n'y a rien de possible. Le mépris ou l'oubli de cela, de l'accomplissement de la volonté de Dieu, ne pourrait qu'être sanctionné par une impossibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez que le Seigneur Jésus a dit à Pierre, l'apôtre Pierre, voyant venir son Seigneur avec une cuvette, une grande cuvette d'eau, n'est-ce pas, pour lui laver les pieds. Ah, Dieu le plaît, Seigneur. À moi, tu ne me laveras pas les pieds. Peut-être les autres ont laissé faire, mais moi, il n'y a rien à faire, toi, mon Seigneur. Si je ne te lave, tu n'entreras pas. Tu n'auras pas de part avec moi. Ce qui veut dire, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Vous voyez ? N'est-ce pas ? L'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est fondamental. Et tout est fait, Dieu a tout organisé, tout prévu, tout donné, pour que nous puissions par grâce et par force d'esprit, n'est-ce pas ? C'est pas du légalisme ça, par force d'esprit, nous puissions arriver à accomplir la volonté de Dieu. Et puis alors je note une deuxième chose, toujours dans le sens de l'harmonie, au cours de la prédication de notre frère ce matin au culte, c'est-à-dire, je crois que c'est Paul Ettori, c'est bien ça ? Christian. Ah non, c'est pas Paul Ettori, c'était Christian Chestanier. Christian Chestanier. Alors, lui aussi, il nous a rappelé que l'obéissance et l'accomplissement de la volonté, enfin je ne sais plus les termes, peu importe, n'est-ce pas, mais il y a eu ça aussi dans son message. Alors, vous voyez que le Seigneur, n'est-ce pas, ne nous parle pas plusieurs langages, mais il harmonise tout son conseil, tout le conseil qu'il nous donne par les uns et les autres. Alors, nous sommes sur cet accomplissement de la volonté de Dieu, et nous allons lire les deux versets, bien sûr. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce soir, nous serons alors à la dernière proposition, non pas phrase, mais proposition de la dernière phrase, c'est-à-dire « afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait ». Que peut-on appeler le discernement de la volonté de Dieu? Il faut d'abord que nous disions cela. Mais très rapidement, je voudrais vous rappeler, chose que vous devez savoir, qu'il y a trois sortes de discernement dans l'Écriture. Il y a le discernement des esprits, pour lequel, d'ailleurs, un don spirituel est prévu, comme il y a un don de foi, mais il faut que le discernement des esprits, tout comme la foi, en dehors du don, n'est-ce pas, que ce discernement soit au service de tous. Discernement des esprits. Je ne vais pas en parler, je le cite. Il y a un second discernement nécessaire, qui est le discernement des temps. Il faut savoir où nous en sommes. Et le Seigneur Jésus nous a affirmé que dans sa mission, le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité et nous rappellerait ou nous informerait des choses à venir. Le Saint-Esprit, donc, veut nous donner un discernement pour que, par le moyen, bien sûr, de la parole qui contient une partie prophétique tellement importante, tellement large, et qui nous parle du passé, du présent et de l'avenir, eh bien, que par le moyen de cette parole, nous sachions plutôt prévoir où nous en sommes. Le Seigneur disait, comment vous discernez, d'après le ciel, le temps qu'il va faire demain, et vous ne discernez pas les signes de ce temps. Discernement des temps. Et puis le troisième discernement, qui est le discernement du bien et du mal. Et c'est surtout celui-là qui nous occupe maintenant. Discernement du bien et du mal. Alors, disons ce qu'est le discernement. Le discernement est une appréciation. Et bien entendu, comme c'est une dotation divine, c'est un discernement de nature spirituelle. C'est-à-dire quelque chose qui tient du surnaturel, qui vient de l'esprit. C'est une appréciation bonne des choses. Une juste appréciation des choses. C'est-à-dire, précisons, appréciation juste de ce qu'il y a lieu de faire ou de dire en toute occasion. Dans les occasions petites ou grandes qui s'offrent à nous, ce qu'il y a lieu donc de faire ou de dire en toute occasion pour accomplir la volonté de Dieu. Ah, je pense que vous voyez cette définition du discernement, une appréciation bonne ou juste de ce qu'il y a lieu de faire ou de dire en toute occasion pour accomplir la volonté de Dieu. Discerner, ce sera donc découvrir les caractères qui font la différence des choses. Et nous sommes un petit peu peut-être là dans un langage théorique, mais nous allons voir cela d'un peu plus près. Découvrir les caractères qui font la différence des choses, et en définitive, c'est avoir un jugement spirituel, discernement ou jugement, un jugement spirituel. Non pas un jugement sur les personnes, mais un jugement des choses. Nous pourrions, au sujet de ce jugement, lire 1 Corinthiens chapitre 2, et verset 15, que nous avons déjà lu, n'est-ce pas, mais enfin je le relis, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, c'est-à-dire apprécie et capable d'apprécier toute chose, et il n'est lui-même jugé par personne. Il n'y a pas dans le monde de personne qui puisse juger Christ, et qui puisse juger par conséquent les chrétiens. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Alors, nous pourrions dire, le discernement, en somme, va nous mettre en possession de la pensée de Christ. Et nous allons voir cela dans un exemple. Mais je voudrais remarquer une chose. Vous savez, dans le temps que nous vivons maintenant, qui est la fin du temps de l'Église, nous sommes engagés dans la fin du temps de l'Église, on parle beaucoup avec crainte du légalisme. Alors, je vous dirais que, personnellement, je sais ce que le légalisme a de nocif, de dangereux. Je sais qu'il est capable de détruire une église. Oui. Et on l'a vu sur le plan de l'expérience. C'est vrai. Mais attention, il ne faut pas voir du légalisme partout. Parce que il y aurait une exagération, et ça je l'ai senti, cette exagération, qui aboutirait tout simplement à ceci, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient, alors nous ne sommes plus sous la loi, on rejette la loi, et on ne veut plus qu'on nous parle d'obéissance, on ne veut plus qu'on nous dise, mais cette chose-là, elle est à faire. Elle plaît au Seigneur, il faut la faire. Alors là, n'est-ce pas, c'est un excès épouvantable, épouvantable. Ne plus être sous la loi, mais sous la grâce, et l'apôtre Paul nous dit bien que nous pouvons, nous, ne pas succomber au péché parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Parce que la loi, pour nous, ne joue plus le rôle qu'elle a joué autrefois. Elle n'est pas l'instrument. Elle n'est pas un instrument qui conduise des hommes pécheurs, mais repentis et pardonnés, qui les conduisent à l'obéissance. Mais il faut y aller, cependant, à l'obéissance par une autre voie, et cette voie, c'est la grâce. Alors, je voudrais remarquer ceci, c'est que discerner le bien du mal, cela exclut l'obéissance passive, l'obéissance non éclairée, et par conséquent, exclut le rôle extérieur de la loi, le rôle que la loi jouait extérieurement, et c'est bien ça le temps de la grâce. Nous sommes vraiment là, en parlant de discernement, sous l'empire de la grâce. Je voudrais encore faire, au sujet du discernement, voir un verset dans les Philippiens, Philippiens chapitre 1, et verset 10, alors nous lisons au verset 9, pour avoir le verset 10, verset 9 du premier chapitre des Philippiens. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Autrement dit, des choses vraiment bonnes, des choses qui véritablement accomplissent la volonté de Dieu. Alors, là, nous voyons que le discernement est quelque chose de lié à l'amour, envers Dieu. Ce que je demande, c'est que votre amour, l'amour que vous avez dans le cœur, l'amour que vous ressentez, l'amour que vous mettez en œuvre, augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures. Alors, voilà ce que veut dire l'apôtre. Il dit, vous avez de l'amour dans le cœur. Bien, c'est bien. Vous désirez être rempli de cet amour par le Saint-Esprit. C'est parfait. C'est ce qu'il vous faut, en effet. Ah, l'amour, c'est capital, parce que la foi Elle toute seule ne peut pas faire des œuvres qui subsistent jusqu'en vie éternelle. Il faut qu'il y ait la foi et l'amour. Bon, ça nous le savons. Eh bien alors, votre amour, c'est quelque chose d'infiniment précieux, mais pensez à ceci, nous dit l'apôtre, c'est que votre amour a besoin de ces deux choses, connaissance et pleine intelligence. Nous avons parlé de l'intelligence, nous l'avions dans notre verset, nous en avons déjà parlé ces jours-ci. En connaissance et en pleine intelligence, alors que votre amour se saisisse et cherche à être en possession toujours davantage d'une connaissance plus profonde encore, et d'une pleine intelligence pour le discernement des choses de meilleur, c'est-à-dire que là, votre amour va ainsi réussir à faire tout ce qui est agréable à Dieu. Vous allez réussir à faire la volonté de Dieu par le moyen de cette connaissance et de cette intelligence poussée encore plus loin. Vous allez pouvoir vraiment discerner les choses les meilleures et parvenir à un accomplissement plus réel de la volonté de Dieu. Alors, nous disions que le discernement était une juste appréciation de ce qu'il y a lieu de faire ou de dire. Eh bien, par le moyen du prophète Ézéchiel, nous allons préciser cela. Ézéchiel, dans le chapitre 22 et au verset 26. Chapitre 22 et au verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître au peuple s'entend, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Voilà deux choses, n'est-ce pas, vous voyez, une distinction fondamentale que doit opérer le discernement. Ce qui est profane ou ce qui est saint, ce qui est pur et ce qui est impur. Et puis, dans Jérémie, au chapitre 15 et au verset 19, chapitre 15, verset 19, c'est une réponse de l'Éternel au prophète. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ah, que c'est magnifique. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Mais ça ne va pas de soi, ça. Cette séparation, ce discernement de ce qui est précieux et de ce qui est vil. Enfin, quand nous avons deux ordres de choses, qu'est-ce qui est vil ici? Qu'est-ce qui est précieux là? Est-ce que bien tout est précieux ici? Est-ce que tout est vil là? Et puis alors, pur, impur, saint et profane, la notion de quelque chose de saint et quelque chose de profane, nous ne savons pas suffisamment aujourd'hui faire ces différences-là. Dans la vie moderne, nous sommes sollicités de tant de manières. Il y a des choses qui sont profanes. Il y a des attitudes qui sont profanes. Peut-être pas, si vous voulez, d'une façon uniforme pour tout le monde. Parce que ça dépend du degré, peut-être, de spiritualité que l'on a atteint. Ça dépend de l'expérience que l'on a faite. Ça dépend du chemin que le Seigneur nous a fait parcourir, n'est-ce pas? Il y a une progression. Alors, aux jeunes âmes, peut-être, on va peut-être pas demander de posséder un discernement aussi fin qu'on le demandera à ceux qui ont déjà beaucoup reçu. Vous savez que ceux qui ont déjà beaucoup reçu, on leur demande plus. On leur demande beaucoup. Mais de toute manière, n'est-ce pas, il faut arriver à cette distinction. Il y a des moments où des choses ne peuvent pas satisfaire notre cœur aimant, notre cœur chrétien, parce que ces choses ont quelque chose de profane. Je ne dis pas, on ne dirait pas, comme disent quelques-uns, c'est péché ou c'est pas péché. C'est pas ça, le discernement. Il ne s'agit pas de savoir si c'est péché ou péché. Si on fait quelque chose qu'on sent être profane, et on a donc ce sens, cette conviction, et on le fait quand même, alors là, ce sera le péché. Mais il faut savoir distinguer ce qui est profane de ce qui est saint. Et dans la vie moderne, il y a tant de choses qui naviguent, voyez-vous, entre ce qui est saint. Puis, la même chose, dans certaines circonstances, pourra être profane, dans d'autres circonstances, elle ne le sera pas. Vous voyez, c'est très subtil. C'est très subtil. Et ce qui est pur de ce qui est impur. Je ne vais pas épiloguer longtemps là-dessus, mais je livre ça à votre réflexion. Si nous voulons vraiment aimer le Seigneur et que notre amour soit augmente en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, alors là, vraiment, nous nous laisserons conduire plus avant par l'esprit dans cette différence, cette distinction entre le profane, ce qui est profane et ce qui est saint. Et on pourrait employer deux autres qualificatifs, on pourrait dire précieux et vil, pur ou impur, saint et profane, on pourrait dire distinction entre ce qui est charnel et ce qui est vraiment spirituel. Ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Je voudrais au passage noter que le roi Salomon, dans la meilleure partie de son temps, de son règne, et c'était au début, a fait une demande à Dieu qui est magnifique et qui peut être la nôtre. Dans le premier livre des rois, au chapitre 3, le verset 9, dans sa demande, cette demande qui a été si agréable à Dieu, chapitre 3 du premier livre des rois et verset 9, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Voyez-vous, comme ce roi avait vraiment été à ce moment-là guidé par l'esprit, pour faire cette demande qui a été si agréable à Dieu, un cœur intelligent, nous revenons toujours à ça, l'intelligence sera le moyen, cette intelligence spirituelle, pour juger ou pour discerner, juger le peuple, mais discerner en le jugeant le bien du mal. Discerner le bien du mal. Alors, évidemment, il s'agit de discerner ce qui est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu sera toujours du côté de ce qui est saint, du côté de ce qui est pur, du côté de ce qui est précieux et du côté de ce qui est spirituel. Bien entendu, la volonté de Dieu sera là. Mais le distinguo n'est pas quelque chose qui va de soi, nous l'avons dit, pas discerner exclut toute passivité. C'est le discernement, c'est en nous une lumière particulière, et Dieu veut véritablement que nous soyons des personnes intelligentes. Jamais le Saint-Esprit n'intervient dans nos vies pour faire de nous des automates. Ça va à l'encontre du plan de Dieu. Des personnes libres et intelligentes. Et l'obéissance à la volonté de Dieu, c'est un fait de liberté. Jésus était libre, entièrement libre. D'ailleurs, il le dira, je ne suis pas obligé de donner ma vie. On ne la prend pas, ma vie, mais je la donne, moi-même. Moi-même, je la donne pour mes brebis, je la donne. Et Jésus était libre, et il a employé sa liberté à accomplir la volonté de son Père. Nous disions que la volonté de Dieu était quelque chose de subtil. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi. On ne peut pas dire, d'une façon tranchée, « Ah, ça c'est la volonté de Dieu, ça n'est pas. » on pourra le faire, certes, on doit pouvoir le faire, par le moyen du discernement, et qui nécessite, bien sûr, quelquefois, une certaine réflexion, et en tout cas, qui exclut une spontanéité trop grande. Et la volonté de Dieu peut donc prendre différents aspects selon les circonstances. Ce n'est pas un automatisme qui peut nous le dire. Paul parle de la lettre qui tue et de l'esprit qui vivifie. Lettre, il fait allusion essentiellement à la loi. La loi, si nous nous placions sous la loi, nous risquerions d'être sous le ministère de la condamnation. Mais aussi, il n'y a pas d'inconvénient du tout, à voir la lettre comme étant la prise en considération simplement du sens premier, littéral, uniquement littéral, de la parole de Dieu écrite. Bien sûr, le sens littéral, nous en avons besoin pour la méditer. Nous en avons besoin, ça, je vous assure que quand on veut faire vraiment une étude profonde, il faut d'abord faire de l'exégèse. Et faire de l'exégèse d'abord et quelquefois même aller sonder la langue première, la langue originale. Mais il n'y a pas, il ne faut pas rester sur le sens littéral et appliquer la parole de Dieu uniquement sous son aspect littéral. Alors c'est là que nous risquerions de graves mécomptes. Il n'y a pas donc application de la volonté de Dieu, accomplissement de la volonté de Dieu plutôt, par le moyen de la lettre dont nous servirions à l'emporte-pièce. Je prends un verset dans son sens littéral et puis, je l'applique à la circonstance. Alors là, je peux faire toutes les erreurs, toutes les choses mauvaises. Alors c'est là que je vais tomber dans un terrible légalisme. C'est là. Et plusieurs exemples nous montrent. Voyons par exemple David qui est allé manger les pains de proposition. Longtemps j'ai cherché, comment vraiment il pouvait avoir, lui qui n'était pas sacrificateur et qui était destiné à être roi, c'est-à-dire précisément séparé de la sacrificature. Royauté et sacrificature étaient tenues séparées puisqu'elles ne pouvaient être réunies qu'en la personne de Jésus. Eh bien, pourtant, Jésus l'approuve. Ne condamnez pas, dira-t-il, n'est-ce pas? Et puis, il prendra lui-même l'exemple de David. Est-ce que David n'est pas allé, une fois, là, manger les pains de proposition, que seul le sacrificateur a le droit, lui, de manger? Et il n'était pas sacrificateur. Et pourtant, à ce moment-là, le Seigneur Jésus nous dit que David n'avait pas péché en faisant cela. Je prends cet exemple. Vous voyez que si on avait appliqué l'emporte-pièce, la loi à l'emporte-pièce, eh bien, David aurait dû être regardé comme un transgresseur, à la lettre. Et plusieurs fois, c'est ce qui a fait d'ailleurs le conflit, le profond conflit entre Jésus et les pharisiens. Ce conflit a souvent été sur ce thème-là, sur ce terrain-là. Voyez par exemple l'attitude des pharisiens concernant le sabbat. Alors pour eux, c'était l'emporte-pièce. Et le jour du sabbat, tu ne dois rien faire. Alors si tu guéris quelqu'un, c'est un travail, tu es transgresseur du sabbat. Et Jésus va leur montrer que non. Jésus va leur montrer que non. Vous voyez, n'est-ce pas, utiliser la parole écrite. Attention, il faut que la parole écrite devienne parole vivante par l'esprit. Mais appliquer la parole écrite à l'emporte-pièce ne permet pas toujours de faire vraiment la volonté de Dieu. On peut même faire le contraire. Mais c'est par un discernement intelligent, dans pourtant un esprit, vraiment un esprit entier de soumission, ou un esprit d'entière soumission. Il faut quand même un esprit de soumission, il le faut, je ne dis pas quand même, je dis, il le faut avant tout un esprit de soumission. Oui, je veux me soumettre à la volonté de Dieu, et il faut que, par intelligence, je puisse la discerner. On a fait quelquefois, alors là, n'est-ce pas, c'est le légalisme dans son aspect le plus terrible. Moi, souvent, je vous dirais que ça m'a fait mettre en colère. Enfin, on n'a pas le droit d'être en colère, mais ça fait monter un courroux. Alors nous dirons un saint courroux, si vous voulez, n'est-ce pas? Et quand j'ai vu quelquefois chrétiens ou chrétiennes exiger de nouveaux membres entrer dans l'église, de nouvelles âmes, leur dire ça, n'est-ce pas, leur plaquer sur le dos tout de suite un verset et de les juger tout de suite comme transgresseurs. C'est pas ça, chers amis. Il faut vraiment le discernement. Alors, je vais prendre un exemple. Dans l'Évangile. Cet exemple, nous allons le trouver dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Et versets 24 à 27. Là, il y a un petit événement, une petite circonstance, où nous allons voir apparaître le discernement de l'intelligence pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Chapitre donc 17, verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes, ou les 10 drachmes ?»« Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire, prends-le et donne-le pour moi et pour toi. » Le stataire faisait donc 10 drachmes, c'est-à-dire 4. Alors ça allait pour 2 personnes. Bien. Les commentateurs sur ce récit nous disent qu'il doit s'agir de la redevance annuelle que les Juifs devaient payer pour le temple. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Mais enfin, je ne vais pas leur faire un procès maintenant, c'est pas mon intention. Il s'agit d'une autre perception que celle-là. Et c'est une perception, justement, qui intéressait les étrangers et non pas les fils, non pas seulement les fils du royaume, mais les fils d'Israël, disons. Enfin, peu importe que ce soit, quel que soit cet impôt des drachmes, peu importe ce qu'il soit. Mais toujours est-il qu'en entrant à Capernaum, il convenait de payer cela par personne, 2 drachmes par personne. Voilà, que ça serve à ceci ou à cela, peu importe. C'était quelque chose qui était prescrit, et par conséquent, lorsque Jésus, qui était seulement accompagné de Pierre, arrive à Capernaum, les gens de là, c'est une sorte comme d'octroi, on a connu ça autrefois dans les villes, n'est-ce pas? Alors les gens lui disent, mais alors, vous ne payez pas la redevance que tout le monde doit payer là, ici. Et alors le Seigneur Jésus fait, par une question, fait dire à Simon que cette redevance, elle doit être perçue des étrangers et non pas des fils des gens du pays qui habitent Capernaum. Et Jésus, à ce moment-là, habitait Capernaum. Il a eu pendant un temps son habitation à Capernaum. Et puis en plus, n'est-ce pas, on peut comprendre qu'il s'agit des membres d'Israël, du peuple d'Israël. Bon, alors, voilà la chose bien établie. Le droit est bien établi. Le droit, c'est de demander cette redevance à des étrangers qui entrent à Capernaum, mais non pas à ceux qui y habitent ou à ceux même qui sont fils d'Israël. Ce n'est pas à eux. Bien, alors, par conséquent, puisque c'était le droit, Jésus ou Pierre auraient pu dire à ceux qui percevaient, là, leur dire, écoutez, nous sommes, nous, gens d'ici, n'est-ce pas, nous sommes fils d'Israël et nous ne sommes pas assujettis à cela, ça c'est le droit, c'est à tort que vous nous réclamez le paiement de cette redevance. Ça aurait été bien, ça aurait été selon le droit. Mais là, Jésus, après avoir bien établi le droit, Jésus va dire mais, cependant, malgré notre droit, pour ne pas les scandaliser. Ah, ne pas les scandaliser. Eh bien, va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson, ouvre-lui la bouche, et puis tu vas trouver un stactère, et tu le donneras pour moi et pour toi. Alors, en somme, Jésus vient de faire réapparaître ce qui est juste, le droit. En droit, donc, Jésus et Pierre n'auraient pas eu à payer cette redevance, mais la volonté divine n'est pas que l'on fasse valoir ce droit. Parce que si Jésus et Simon avaient fait valoir ce droit, leur droit, en disant « nous n'avons pas à payer, nous sommes exempts », il y aurait eu scandale. Et Jésus le sentait. Jésus sentait le scandale. L'ennemi, vous savez, est là. Il rôde partout. Comment y aurait-il eu scandale? On peut facilement l'imaginer. Eh bien, naturellement, ces gens-là voulaient percevoir le plus largement possible parce que ils en mettaient une partie pour eux. D'ailleurs, ils avaient droit à un prélèvement sur les perceptions. Alors, ils en mettaient une partie dans leur poche et par conséquent, ils étaient zélés pour la perception. Alors, il y aurait eu un scandale parce que ils auraient fait du bruit. Et puis, qui sait si l'ennemi n'aurait pas amené quelqu'un là qui aurait dit « Mais comment, toi, Jésus de Nazareth, n'as-tu pas dit que de ne pas refuser à celui qui vous demande ? Même si sa demande est excessive, si te demande une partie de ton vêtement, tu lui donnes l'autre, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as prêché, toi, tu fais le contraire. » Tu n'appliques pas toi-même la parole que tu dis. Ah, le scandale. Voyez-vous? Le scandale. Alors, pour ne pas qu'il y ait scandale et que l'ennemi soit confus, eh bien, Jésus va dire, payons. Bon, seulement c'est très beau de dire payons, mais on n'a pas le sou. Il n'avait pas, c'est pas Simon qui tenait la bourse. Alors, il n'avait pas un seul drachme sur eux. Bon, mais comme il s'agit de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu était justement d'éviter le scandale et de l'éviter comme ça, en payant. Bon, quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, Seigneur, on veut faire ta volonté, mais on n'en a pas les moyens. Alors Dieu intervient, même par le miracle, s'il le faut. Et voilà ce qui fait qu'il y a ici un miracle. Ce miracle n'est pas là pour nous montrer, n'est-ce pas, nous démontrer la puissance de Dieu. Simplement pour nous dire, voyez-vous, quand vous voulez faire la volonté de Dieu, ne dites pas « je ne peux pas ». Si vous avez discerné que la volonté de Dieu est dans cette direction, il s'agit de dire ou de faire telle chose, ne dites pas « je ne peux pas ». Ça arrive que nous disions ça. Je ne peux pas. Alors là, véritablement, nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi. Et, chers amis, je puis vous dire que sur le plan pratique, dans l'Église, je ne veux pas parler de moi personnellement, mais de ce que je connais, de différents chrétiens, hein, eh bien, il y a des chrétiens qui, effectivement, n'ayant pas les moyens, je ne parle pas des moyens notamment matériels ou de l'argent, mais n'ayant pas la possibilité, les possibilités, si vous voulez, de faire la volonté de Dieu, sentant toutefois quelle était la volonté de Dieu, la discernant, ont prié Dieu, et Dieu a fidèlement répondu et permis que l'on puisse faire sa volonté. Et c'est merveilleux de marcher ainsi, n'est-ce pas? C'est magnifique, voyez-vous. Vous pouvez donner à Dieu l'occasion de faire même un miracle. Même un miracle. Par conséquent, n'est-ce pas, le raisonnement doit être entièrement banni. Il n'y a pas de raisonnement à opposer. La volonté de Dieu est-elle bien celle-là? Attention, un discernement sûr, n'est-ce pas? Discernement spirituel sûr. La volonté de Dieu est cela. Bon, alors, nous ne ferons pas les autres choses. Nous ferons la volonté de Dieu. Comment? Je ne sais pas. Les moyens nous en manquent. Mais Dieu nous le permettra. Et cela arrivera. Voilà une vie chrétienne qui est véritablement conduite comme Dieu le veut. En somme, chaque circonstance demande réflexion et attente de la direction du Seigneur. Et quand nous faisons cela, chers amis, nous pourvoyons au témoignage. Quand nous avons fait la volonté de Dieu, nous avons pu éviter, comme ici par exemple, un scandale, et nous pourvoyons au témoignage. Et avant de terminer, je voudrais dire ce qu'il faut comprendre par les trois qualificatifs qu'emploie notre apôtre, l'apôtre Paul, dans les versets que nous étudions, c'est-à-dire Romains 12, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'ai déjà dit que certains traducteurs, et dans le grec ça peut se justifier, attachent les trois qualificatifs à la volonté de Dieu. Mais la traduction peut aussi se justifier telle qu'elle est là. C'est-à-dire la volonté, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, non pas la volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite, mais la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, agréable et parfait. Et cette traduction est certainement meilleure. Quand deux traductions dans le grec, par exemple, sont possibles, il faut prendre celle qui cadre le mieux avec le contexte et l'intention du contexte. Alors, trois adjectifs qui qualifient trois manières, les actions qui seront l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui veut dire ce qui est vraiment le bien, ce qui est le bien. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, et au verset 14, au verset 13 et 14 du chapitre 5 des Hébreux, nous avons ceci. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ou les hommes accomplis. On pourrait même dire les hommes parfaits, c'est-à-dire accomplis. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Vous voyez que l'expérience va intervenir aussi dans l'affinement du discernement. L'expérience va dire, si on ne met pas les choses en expérience, il est évident qu'on ne progressera jamais. Par conséquent, notre vie chrétienne est un champ d'expérience. Et il faut absolument qu'elle nous fasse acquérir le bon usage du discernement, discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Voilà donc ce que veut dire l'apôtre en disant ce qui est bon. Vous faire lire encore d'autres versets, mais par certains versets, notamment 2 Corinthiens 5, verset 10, ou Romains 14, verset 10, l'apôtre Paul va nous montrer que, en fin de compte, nous passerons devant le tribunal de Christ. Non pas pour que, si nous sommes vraiment chrétiens, non pas pour que soit remis en cause notre salut, mais pour juger, que soient jugés les sentiments intimes, les mobiles secrets qui nous ont fait agir, pour que soit examiné ce que nous aurons fait de bien ou de mal étant dans notre corps pendant le cours de notre vie chrétienne. Il y aura là, n'est-ce pas ? Et cela va de soi. Cela va de soi. Il faut que notre vie chrétienne paraisse au grand jour et soit jugée. Chers amis, pensez-y. Pensez-y. Notre vie chrétienne doit être jugée. Et même des paroles. Puisque le Seigneur Jésus n'a pas hésité à dire, par tes paroles, tu seras justifié ou tu seras condamné. Attention, les paroles. Alors, il y a lieu d'être très sérieux, nous avons besoin du discernement du bien et du mal. Donc ce n'est pas la remise en cause du salut qui est annoncée par le jugement de Christ, mais d'une plus ou moins grande récompense, c'est cela qui est à la clé, à condition bien sûr qu'on ait tout fait pour garder le salut. Ce qui est agréable à Dieu, naturellement, ce qui est agréable à Dieu est devant les hommes. Lorsque vous lisez certains versets, vous trouvez cela devant les hommes, devant les hommes. Et le Seigneur Jésus, au gré de l'Évangile selon Luc, au cours de sa jeunesse, de sa croissance, eh bien, il apparaissait comme un jeune qui était vraiment rempli de la grâce de Dieu devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Les hommes le constataient. Alors, ce qui est agréable à Dieu est ce qui est vraiment aussi agréable aux hommes qui regardent. C'est agréable de voir quelqu'un qui est véritablement conduit par un discernement spirituel et qui fait la volonté de Dieu. Au point que, chers amis, quelquefois, l'ennemi se sert de personnes non converties pour vous parler, quelqu'un d'ailleurs l'a souligné dernièrement, pour vous parler et vous dire comment vous êtes chrétien, et pourquoi ne faites-vous pas telle chose? Est-ce qu'en chrétien vous ne devriez pas faire telle chose? Et souvent c'est vrai, et quelquefois c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai, oui, il y a quelquefois des lueurs de discernement chez des païens ou des gens qui ne sont pas encore dans l'Église, à notre adresse. Ce qui est agréable. Donc la volonté de Dieu réalisée par le chrétien fidèle est un trait de lumière et elle porte un témoignage qui est ressenti, un bon témoignage qui est ressenti comme une chose agréable. Et ce qui fait dire qu'à des personnes extérieures, en entendant des chrétiens ou en les voyant vivre, comme je voudrais être comme vous, comme je voudrais avoir la foi que vous avez. Vous n'avez pas entendu une fois des choses comme ça? Mais il faudrait l'entendre souvent, pas pour s'enorgueillir, naturellement, n'est-ce pas, mais parce que, vraiment, c'est un effet qui doit être produit sur les autres. Et ce qui est parfait, c'est-à-dire l'exact accomplissement de la volonté divine, est un acte de la perfection. Ce qui est parfait, c'est un acte de la perfection. Si, par discernement, je parviens, dans toutes les occasions qui me sont offertes, à accomplir la volonté de mon Dieu, alors, je fais des actes de perfection. Je ne suis peut-être pas parfait, encore, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je fais des actes de perfection. Chez le fidèle transformé en son intelligence spirituelle, le cœur et les actions du corps se trouvent en harmonie et correspondent à la volonté de Dieu comme chez le Seigneur Jésus. Et cela fait exhaler la bonne odeur de Christ. La bonne odeur de Christ, vous savez, c'est peut-être pas tout à fait gratuit, en ce sens, n'est-ce pas, qu'il faudra discerner la volonté de Dieu comme pouvait le faire le Seigneur Jésus, et puis l'accomplir en toutes choses. Alors là, il y a une bonne odeur de Christ, et notre témoignage en sera tellement renforcé. Voilà, nous arrêtons là maintenant notre étude sur ces deux versets. Vous voyez que la parole de Dieu est très riche et qu'elle contient beaucoup de choses à notre adresse. Que le Seigneur nous permette d'y penser, d'y réfléchir et de mettre ces choses en pratique. Amen.